Ruralité queer. C'est un créneau sonore que l'on vous propose chaque mercredi à 15h afin d'aborder la diversité des ruralités LGBTQIA+. Et ce, afin d'explorer les enjeux queer à la campagne et lutter contre les LGBT-phobies. Un format soutenu par la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Si vous souhaitez participer à cette programmation ou témoigner sur nos ondes, contactez-nous par mail à radioroyant@gmail.com.
À toutes et à tous, vous écoutez Radio BLV, Radio Couleur Chartreuse, Radio Royan Vercors et Radio des Boutières. Bienvenue dans un grand direct à l'occasion des 40 ans de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. 40 ans que la PGL se bat pour que les personnes LGBT+ puissent faire famille sans peur ni discrimination. Le plateau radio est installé dans la médiathèque François Mitterrand à Valence, dans l'ancienne caserne La Tour Maubourg, qui est aussi le cœur des archives de Valence Roman Aglo. Pour cette table ronde, grandir dans une famille LGBT+, nos histoires pour l'égalité, nous avons le plaisir d'accueillir autour du plateau Catherine Clavin, coprésidente de la PGL et avocate spécialisée en droit de la famille, Dominique Borène, coprésidente de la PGL, et Virginie Descoutures, sociologue, et vous entendrez aussi des témoignages d'enfants et de parents. C'est Selva à l'animation, Clément à la régie radio, Florian et Gaëtan derrière les caméras et à la régie vidéo. Bonjour Virginie, bonjour Dominique, bonjour Catherine.
Bonjour.
Bonjour.
Les micros fonctionnent. Oui. Alors, pour commencer à rentrer tout doucement dans le bain, est-ce que les familles LGBT+ sont des familles extraordinaires, avec chacun de vos points de vue situés?
Elles le sont forcément. Elles le sont par définition, elles le sont par leur existence même, leur projet même. Quand on dit extraordinaire, elles portent de l'ordinaire. Alors, est-ce que ça en fait des familles extraordinaires dans une autre acceptation du sens du terme? Ça, chacun le voit, mais elles sont extraordinaires. Oui.
Elles le sont, et en même temps, elles aimeraient bien être ordinaires. Donc, c'est un petit peu la particularité. On fait tout pour qu'elles deviennent ordinaires, ces familles extraordinaires. C'est un terme qui peut être sympathique, mais véritablement, l'envie, c'est d'être comme les autres, donc de devenir ordinaire.
Oui, et j'ajouterais, je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin d'Anne Cadoret, Des parents comme les autres. C'était déjà au début des années 2000, c'était déjà le plaidoyer d'être des parents comme les autres. Alors du point de vue de la norme, quand même, statistiquement, elles sont extraordinaires par rapport à l'ensemble des familles. Mais on y reviendra peut-être après aussi, du point de vue du droit, censé être... non différentialiste, puisque la République cadre comme ça, en fait, elles le sont aussi. Elles ne sont pas des familles comme les autres aussi encore de ce point de vue-là. Je pense qu'on y reviendra après.
On va écouter tout de suite quelques témoignages récoltés par la PGL sur comment vient l'intention de devenir parent.
C'est quelque chose que j'ai commencé tardivement dans la vie parce que j'étais pas à l'aise avec les différentes façons d'accéder à la parentalité. Et ce par quoi nous sommes passés, c'est une gestation pour autrui. Et c'est un sujet qui est complexe, qui nécessite beaucoup de temps pour en mesurer les tenants et aboutissants. Et j'avais des a priori qui étaient pas négatifs, mais en tout cas pas évidents. Et il a fallu du temps pour mieux comprendre, mieux digérer, mieux connaître, avant de se lancer soi-même complètement et de l'assumer vis-à-vis de nous, vis-à-vis des tiers.
Moi, ça a été, est-ce que je veux vraiment un enfant? À quel point, en fait, est-ce que ça fait un certain temps qu'on est ensemble, on a l'âge, la société aussi te dit qu'au bout d'un moment, t'es censé avoir des enfants. Donc, est-ce qu'en fait, je le veux vraiment? Et quel impact ça va avoir aussi sur notre couple, de passer de 2 à 3?
C'est ça qui a fait que c'est arrivé très tard. C'est que je me pose énormément de questions et que je vois bien les enjeux. Enfin, un enfant, c'est important. Enfin, une vie humaine, c'est important. Et d'être parent, c'est important. Ça demande de la présence, ça demande de l'attention, ça demande beaucoup d'amour, beaucoup de disponibilité. Et moi, j'aime beaucoup ma liberté. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que... Enfin, qu'au contraire, ça m'ouvre d'autres, d'autres portes, d'autres univers en fait que je connaissais pas et qui qui me remplissent quoi de joie. En fait, il y avait le côté toute la vie aussi moi qui m'angoissait beaucoup. Le truc éternel quoi, on peut plus revenir en arrière. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça qui me ravit quoi. C'est de me dire bah ça c'est enfin justement cette relation là, waouh, celle-là elle est à vie, enfin pour de mon côté de la relation après. Je peux pas maîtriser le côté de ma fille.
On vient d'entendre des personnes qui sont devenues parents et qui se souviennent des doutes qui les ont traversés. Avant de se lancer dans le projet de parentalité, est-ce que déjà sur ces témoignages, vous avez des réactions ?
Ben on s'y reconnaît forcément. Hein, devenir parent est peut-être un petit peu plus facile maintenant et à mesure qu'on avance dans le temps, grâce aux évolutions et grâce à l'inclusion de nos familles plus facile qu'avant, mais c'est vrai que on est parents. L'accès à la parentalité n'est pas facile. La reconnaissance du lien juridique n'est pas simple non plus. Et on a besoin de beaucoup de temps de maturation pour se lancer dans des parcours extrêmement complexes. Donc oui, les enfants n'arrivent pas par hasard dans nos familles. Et c'est effectivement le fruit d'une longue maturation, d'une longue réflexion. Et puis on se lance comme tout le monde finalement après derrière.
Oui, alors faut jamais oublier que dans homo parent, il y a homo et parent, et ça reste toujours en tension. La PGL est née non pas de désir d'enfant, enfin, elle est née entre autres de désir d'enfant, parce que ce sont des hommes, entre autres, qui souhaitaient adopter des enfants et qui se voyaient refuser l'agrément, hommes et femmes d'ailleurs. Hein. Et puis bien vite, on a vu apparaître des parents, des hommes, des homo parents, mais qui étaient parents dans un contexte hétéronormé. Donc ça, c'était un peu différent parce qu'on avait déjà des personnes qui étaient déjà parents. En fait, la PGL, c'est 40 ans d'évolution de ce questionnement qui reste toujours d'actualité. Est-ce que la préparation du projet est tout aussi important que la famille, en fait ?
On va parler de l'histoire de la PGL, justement, mais déjà pour poser les choses, quels sont les différents moyens ou les différents moyens d'accéder à la parentalité pour une personne gay, lesbienne, trans, ou les différentes configurations qui permettent d'accéder à la parentalité pour poser vraiment les différents possibles pour les auditeurs et auditrices et pour notre public.
Ouais, donc la PGL, 40 ans d'expérience et 40 ans de panorama de la diversité des familles homoparentales, qu'on peut décliner LGBT parental aujourd'hui, sachant que pour les familles des personnes, pour les personnes trans, c'est autre chose encore aujourd'hui parce que c'est celle qui a le moins de droits en fait. Voilà. Pour faire bref. Alors ça dépend des configurations, des sujets, etc. Mais bon. Donc aujourd'hui, comment on devient parent ? Le schéma assez classique. Le premier, c'est l'adoption de, au sens agrément, c'est-à-dire on obtient un agrément, on dépose un dossier, on obtient un agrément, et puis en fonction de, les possibilités qui sont ouvertes, on peut avoir un enfant confié à des couples qui ont obtenu un agrément. C'était pas possible avant 2012, elle est devenue après, et ça reste un moyen d'être parent aujourd'hui. Après, on a tout ce qui touche, on va dire, c'est pas une invention de la PGL, mais la PGL y a été pour beaucoup, ça se décline, on va dire, sous différents vocables, tout ce qui a trait à la coparentalité ou à la pluriparentalité, qui est en fait un schéma assez, à la fois très simple, mais éminemment compliqué, qui est en fait un projet d'enfant entre un homme et une femme, ou deux hommes, une femme, ou deux femmes, deux hommes. Et ce projet d'enfant, quand l'enfant arrive, en fait, les parents ont ce qu'on appelle une éducation conjointe. Ils vivent pas ensemble, mais ils ont une éducation conjointe de l'enfant. Voilà, ça c'est la coparentalité, la pluriparentalité. Ça reste aujourd'hui la parentalité la plus pauvre dans tout le système juridique en France. Après, il y a bien l'émergence de merveilleuses techniques de procréation, avec la procréation médicale ou la procréation amicale, et puis la GPA. Voilà à peu près ce qu'on a comme panorama. Et reste, mais ça c'était tout à fait à l'origine, ce que j'ai appelé tout à l'heure, ces personnes qui étaient dans les couples hétéros et qui ont eu des enfants dans les couples hétéros, qui après se sont séparés pour vivre leur vie d'homo, mais tout en y restant parents. Voilà.
Alors ces différents moyens d'accéder à la parentalité, ces différentes configurations familiales sont accueillies sans jugement à la PGL, c'est important de le dire.
donc par l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens. On écoute quelques témoignages d'enfants et de parents qui évoquent comment ils sont devenus enfants d'eux ou parents. Et on se retrouve juste après pour se pencher sur l'histoire de la PGL que tu as commencé à évoquer, Dominique.
Comment je suis devenue mère ? Tout simplement, j'ai fait un enfant avec ma compagne. C'est comme n'importe quelle famille, je pense. On était deux personnes, on avait envie d'avoir un enfant et on a fait un enfant. Le plus compliqué, c'est qu'on n'arrivait pas à faire un enfant. Donc, on est passé sur un parcours PMA classique au début et on s'est retrouvé à terminer en FIV parce qu'on n'arrivait pas à avoir cet enfant. C'était un parcours plus long que prévu.
Moi, ce qui était le plus compliqué, ça a été l'attente. On a fait le parcours en France et il y a eu un an et demi entre l'inscription, enfin le premier appel et les essais.
C'est un parcours long qui a mis du temps à être enclenché, qui s'est concrétisé à mes 40 ans et qui a pris 3 ans entre la décision de se lancer dans le parcours et son aboutissement.
Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai 6 ans, je suis en CP et j'ai 2 papas. Je suis née dans le ventre d'une dame, mais c'était pas ma maman. Et après, je suis sortie de son ventre. Et il y a une dame qui s'est occupée de moi, elle s'appelle Aurélie. Et après, mes papas, ils sont venus. Et après, on est rentrés à la maison.
Dans ma famille, j'ai un petit frère et j'ai 2 mamans. Maman, elle a demandé à un garçon de lui donner une graine.
J'ai 7 ans, je m'appelle Sam et je suis en CP. C'est facile, je suis sortie du ventre d'une dame qui ne pouvait pas s'occuper de moi. Elle m'a confiée à la pouponnière, mes papas m'ont adoptée et voilà, je suis là. En parole d'enfants qui sont à la télé, ça devrait mieux être compris que les adultes. Et pour une fois, même les adultes le comprendront.
Il y a un monsieur qui a donné les graines aux mamans. Ça fait d'abord Adam et après moi.
Avec ses mamans, elles sont allées en Belgique.
Belgique ?
Et en fait, elles sont allées prendre des graines qui venaient du Danemark. Ils ont mis dans votre ventre. Au début, dans le ventre de Marjorie.
Mien.
Et après, ça a commencé à faire un petit œuf. Et ça a fait moi.
Alors, je m'appelle Théo, j'ai 15 ans. J'aime bien le football et je vais passer en première.
Moi, je m'appelle Maïly, j'ai 11 ans. Je suis en CM2, je suis passée en 6e et je fais du triathlon.
Il y a ma mère, elle se sentait plus trop bien dans son corps, du coup, elle a changé.
Pour des parents normaux, ils se sont rencontrés au bowling, après ils se sont tombés amoureux. Ça fait 18 ans un peu plus qu'ils sont en couple, et après on a été fait. Et après ça a bousculé. Là, je suis changé de genre. Elles se sont mariées il y a pas longtemps.
Moi, je m'appelle Sacha, j'ai 20 ans. Je suis en études d'histoire à Lyon en 3e année. J'ai 2 mamans et j'ai mon papa que du coup je connais, que je vois, qu'on fait des repas de famille.
On vient d'entendre des enfants parler de comment ils sont devenus les enfants d'eux et des parents qui évoquent un parcours long. La PGL accompagne aussi les futurs parents dans leur projet de parentalité. Alors si on remonte au début de l'existence de la PGL, on est en 1986, donc il y a 40 ans. Tu as commencé à évoquer un petit peu qu'est-ce qui a mené à la création de la PGL, Dominique ?
En 1986, on rappelle les possibilités qui étaient ouvertes, qui étaient donc, je vais dire peut-être quelque chose qui va vous choquer, mais on n'a jamais attendu d'avoir les droits pour faire des enfants. Hein. Les homos, les lesbiennes, elles sont toujours débrouillées pour avoir des enfants. Évidemment, dans les contextes hétéronormés, mais c'était pas nouveau. Et c'est souvent ce qu'on disait d'ailleurs aux législateurs en leur disant on vous a pas attendu pour avoir des enfants, on va pas attendre votre autorisation. Voilà. Donc ceci dit, donc j'ai évoqué rapidement et tout le contexte. Par exemple, il y a un arrêt très important qui s'est appelé l'arrêt, le cas Fretté, qui était à l'origine de ce monsieur, cet enseignant qui souhaitait adopter et qui s'est vu refuser l'agrément parce qu'il était parce qu'il avait affiché son orientation sexuelle. Ça, c'était d'abord quelques hommes qui se sont rassemblés, puis après ils sont agrégés, c'est les parents. Ces hommes et ces femmes qui étaient en fait particulièrement violentés par les décisions judiciaires, qui suivaient souvent des divorces, des ruptures violentes, et qui se voyaient en fait privés, mais complètement privés de droits de garde et autres exercices de la parentalité, enfin des décisions qui aujourd'hui se sont juste, enfin, impossibles, et d'une violence, d'un ostracisme qui était sans précédent, et l'orientation sexuelle était en fait le prétexte pour vous priver de tous droits parentaux. Je passe les détails, mais les hommes étaient souvent assimilés à d'éventuels pédophiles, et puis les femmes n'étaient pas des femmes puisqu'elles étaient parties avec une autre femme, donc elles ne pouvaient pas être des mères. Bon. C'est des décisions qui ont été rendues jusque dans les années 90, quand même. Bon. Pendant très longtemps, la PGL s'est débrouillée avec tout ça, et puis la coparentalité, c'est-à-dire favoriser un projet d'enfant entre hommes et femmes, qui n'a jamais été un parcours très facile non plus, mais il y a beaucoup de familles aujourd'hui, il y a beaucoup de grands-parents aujourd'hui qui ont eu des enfants en coparentalité et qui ont des petits-enfants. Non, la vraie rupture, ça vient avec en fait l'accès aux techniques de procréation assistée, qui ont vraiment favorisé alors une autre forme de parentalité. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les formes ont toujours coexisté. Alors jusqu'en 2012, on faisait avec ce qu'on avait, c'est-à-dire pas grand-chose, et donc on faisait souvent à l'étranger. Et après 2012, on a vu émerger les droits, et donc là, ça a structuré les projets autrement.
Donc on fait un saut en 2013, le mariage devient ouvert aux couples de personnes de même sexe. Pourquoi cette loi a marqué justement un tournant dans le développement de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens ?
Parce qu'elle a fait entrer des gens qui étaient invisibilisés, rejetés et discriminés dans le droit. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui se sont mariés, mais les premiers couples qui ont vu leur mariage célébré en mairie, souvent la réaction c'était de dire mais c'est incroyable en fait, cette émotion, cette reconnaissance. C'était comme enfin on était admis dans la République, alors pas entièrement, pas avec tous les droits, voilà, mais ça faisait de nous des citoyens, des citoyennes de ce pays à part entière. Faut bien se représenter ce qu'a été ce combat, notamment à travers la violence de la manif pour tous, mais pas que. Si on revoit un peu l'histoire, souvenez-vous du PACS en 99, qui était déjà un aboutissement, mais qui n'avait évidemment pas du tout la portée du mariage. Et bien à ce moment-là, le PACS était déjà comme un début de quelque chose. Et en même temps, on voyait bien que nos politiques à l'époque étaient juste un foutu d'aller jusqu'au bout des droits. Et ça s'est manifesté toujours de cette façon. C'est-à-dire que le mariage, l'ouverture du mariage et l'adoption s'est accompagné en fait aussi d'un statut très particulier qui fait que seuls les homoparents devaient se marier pour adopter leurs enfants. Donc c'était à la fois un pas d'égalité. On rentrait de pied plein dans l'égalité républicaine. Et en même temps, on venait nous rappeler qu'on était forcément encore différents et qu'on devait rester marqué de cette différence.
Est-ce que la loi de 2013 a permis à la PGL de rentrer automatiquement dans l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales ?
Alors,
il faut rappeler juste peut-être, Dominique, oui, le rôle de l'UNAF, parce que oui, pour les personnes qui ne sont pas parents ou qui ne sont pas à l'UDAF, peut-être savoir quel est l'intérêt d'intégrer une association comme ça.
Depuis 1949, la République a instauré un organisme qui s'appelle l'Union nationale des associations familiales, qui est l'interlocuteur des pouvoirs publics en matière de politique familiale et à qui l'État verse un budget qui vient de nos cotisations familiales sur nos salaires et autres. Et cette Union nationale était jusqu'à l'ouverture du mariage extrêmement hostile à l'idée d'intégrer la PGL. Il a fallu qu'on demande notre admission à l'UNAF avant la loi deux fois, et deux fois on nous a refusé au motif que nous ne faisions pas famille alors qu'on avait des enfants et qu'il y avait des parents dans ces familles qui étaient des parents dits légaux, enfin qui étaient des parents qui avaient tous les droits de parents, quoi. L'anecdote a voulu que l'amendement qui a obligé l'UNAF à intégré la PGL, a été portée par Marie-Georges Buffet, et c'est elle qui a tenu la dragée haute à l'UNAF. Mais une fois que la loi a été votée, il nous a fallu 5 ans pour être admis au conseil d'administration de l'UNAF, parce que on devait encore assurer une représentation, un maillage territorial dans un certain nombre d'UDAF. Alors l'UNAF c'est national et l'UDAF c'est local. Et
les UDAF créent des antennes sur plusieurs territoires.
Alors c'est l'UNAF UDAF c'est très important parce que ça peut aussi déployer, vous voyez, des services d'accueil. Certains peuvent avoir des crèches, s'occupent de tout ce qui est l'accompagnement des curatelles.
Enfin, l'éducation familiale, si
possible. Voilà, et siège dans les CAF, siège dans les instances où on va parler des familles. Donc c'était une révolution d'admettre la PGL à l'UNAF. Et moi, j'ai vécu ça avec Marie-Claude Picardat, la coprésidente de l'époque. Le jour où on s'est présenté devant le conseil d'administration de l'UNAF, je peux vous dire que certains ont quand même eu des couleuvres à avaler.
Donc depuis, la PGL a intégré, siège aussi dans des instances qui représentent les droits des familles LGBT. Il y a le conseil de famille, le conseil national des familles de la petite enfance, le conseil économique, social et environnemental. Pour beaucoup, y compris pour moi, c'est un jargon. C'est quoi ces instances
oui,
et
alors,
quelle est l'importance du fait que la PGL siège dans ces instances?
Pour faire très simple, quand la loi, enfin l'ouverture du mariage d'adoption a institutionnalisé la PGL. Et donc, à chaque fois qu'il a été possible, on a obtenu de participer en tant qu'APGL, c'est-à-dire avec notre identité, nos revendications, qui nous sommes, représentant les familles LGBT parentales, de siéger dans les instances où on parle, où on décide, on discute des politiques familiales. Et donc, nous étions des interlocuteurs de fait et politiques avant la loi, nous sommes devenus des institutionnels, enfin des institutions institutionnelles au même titre que toutes les autres associations. Ça, c'était une révolution. Et parfois, on découvre souvent qu'on a des terrains d'entente ou des combats communs, je dirais, en tant que parents. Je vous fais bref sur les écrans et les adolescents. Mais donc, on découvre aussi que, en étant institutionnalisée, la PGL, c'est une famille, c'est une association aussi de famille. Et ça a permis, je terminerai là-dessus, d'ouvrir les chakras de certaines. C'est-à-dire que quand dans ces associations-là, ces organismes-là, ils se sont rendus compte que la FPGL, composée de lesbiennes, de gays, de bi, de trans, etc., étaient en fait des gens qui venaient parler aussi de leurs enfants en tant que parents, eh bien beaucoup de barrières sont tombées.
Alors concrètement aujourd'hui, quel est le cadre légal en France pour les parentés? J'ai dit parenté parce que peut-être qu'on va faire une clarification tout à l'heure entre parentalité et parenté. Mais donc, on va parler tout à l'heure du cadre légal en France avec Catherine, juste avant une virgule. On se retrouve tout de suite après la pause musicale. On écoute le titre « L'amour à la main » du duo Rouquine, un morceau qui parle de procréation amicalement assistée.
Je suis un bon copain, seul dans leur salle de bain. Pas de témoin, je fais l'amour à la main. Elle se marre, Héloïse et Victoire, au fond de leur plumard, et en patience attendent ma semence. Je fais l'amour à la main, juste 2 millilitres d'humain, ouais, pour faire grandir un gamin, un monde qui ne sera pas le mien. Je fais l'amour à la main,
faire un enfant sans père. Ça coûte plus un ovaire, c'est si facile, moi je me branle utile. Je tombe en miettes, en chaude gouttelette, au fond d'une pipette. Aux amoureuses, je donne cette eau précieuse.
Je fais l'amour à la main, juste 2 millilitres d'humain, ouais. Pour faire grandir un gamin, un homme qui ne sera pas le mien. Je fais l'amour à la main, 2 millilitres d'humain, pour faire grandir un gamin, un monde qui ne sera pas le mien.
Je fais l'amour à la main,
à plus petit état, attention.
chez ta mère. Je suis rassuré que les hétéronormés soient pas seuls à en chier. Santé, bonheur et force à vous les sœurs. Je fais l'amour à la main, juste 2 000 livres d'humain. Pour faire grandir un gamin, un homme qui ne sera pas mien.
Vous venez d'écouter L'amour à la main du duo Rouquine. Vous êtes toujours sur Radio BLV, Radio Couleur Chartreuse, Radio Royan Vercors et Radio Desboutières. Une émission spéciale ce mardi 19 mai depuis l'auditorium de la médiathèque François Mitterrand à Valence à l'occasion des 40 ans de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. L'homoparentalité et la parentalité trans recouvrent une grande diversité de situations. Catherine Clavin, tu es avocate, spécialiste en droit de la famille. D'abord, pour nous donner quelques petits repères juridiques, c'est quoi la filiation en droit ?
La filiation, c'est le lien juridique entre les parents et les enfants qui génère des obligations et des droits de chacun sur l'autre. Sur les autres. Donc ça, c'est le lien de filiation, c'est un lien juridique. On parlait tout à l'heure, enfin, tu évoquais tout à l'heure parenté, parentalité. On peut dire que la parentalité, c'est la fonction parentale. La parenté, c'est l'inscription dans une généalogie, l'inscription dans une famille d'un point de vue juridique. Donc pour que la parenté soit consacrée, il faut qu'il y ait un lien de filiation entre déjà un parent, un enfant, et puis l'enfant va s'inscrire dans une famille avec des grands-parents et tout ce qui s'ensuit, ça c'est la parenté. Donc voilà, on distingue déjà ces mots-là pour que les choses soient claires après derrière.
Alors qu'est-ce qui n'est pas permis aux parents et à l'enfant quand la filiation n'est pas reconnue légalement ?
Alors si la filiation n'est pas reconnue, le entre guillemets parent, celui qui a cette fonction parentale, on va dire ça comme ça, le parent n'exerce n'a aucune responsabilité légale à l'égard de l'enfant, il ne transmet pas son nom de famille à l'enfant, et il ne peut pas transmettre son patrimoine de manière favorable à cet enfant-là. L'absence de lien de filiation génère évidemment tous ces points de complexité.
Alors, pour comprendre le cadre légal d'aujourd'hui, parce qu'il y a quand même eu quelques mises à jour ces dernières années, dans quel cadre légal s'exercent aujourd'hui les parentés gays, lesbiennes et trans ?
En fait, on va dire que grossièrement, tout dépendra du mode de conception en fait de cet enfant. Globalement, alors si on veut adopter un enfant, donc permettre à cet enfant d'avoir de nouveaux parents entre guillemets, on devra passer par une procédure judiciaire et obtenir un jugement d'adoption. Mais ça c'est pour tout le monde pareil, que ce soit un couple de sexe différent, un couple de même sexe ou une personne célibataire. En revanche, lorsque l'enfant va naître d'une procréation médicalement assistée ou d'une gestation pour autrui, son lien de filiation ne sera pas établi de la même manière que n'importe quel autre enfant. Dans le cas d'une procréation médicalement assistée, la loi du 2 août 2021 a prévu que la filiation s'établissait à l'égard de cet enfant par un acte notarié qui s'appelle la reconnaissance conjointe anticipé, donc on parle là d'un couple de femmes hein, exclusivement, cet acte doit être réalisé avant même qu'on mette en place son projet parental. On a un projet parental éventuellement de PMA, on va aller devant un notaire et signer une reconnaissance conjointe anticipée. La particularité de cet acte, qui est donc un nouveau mode d'établissement de la filiation depuis la loi du 2 août 2021, c'est qu'il faut ne pas oublier que cet acte doit être fait avant la conception de l'enfant. Et si la femme, une des deux femmes, est enceinte, il sera trop tard. Cette reconnaissance conjointe anticipée ne pourra pas être faite.
Pas pendant la grossesse, ni après la grossesse.
Absolument. Donc ça, c'est une particularité de la loi du 2 août 2021. Pour les parcours de gestation pour autrui, mais ça, c'est pas parce qu'on est un couple de même sexe, que ce soit un couple de femmes ou un couple d'hommes qui s'engage dans un parcours de GPA, la problématique du lien, de la reconnaissance du lien de filiation entre les enfants entre l'enfant et ses parents d'intention, entre guillemets, vient de ce que la France refuse. Évidemment, on sait que la gestation pour autrui est interdite et que pour dissuader ces nationaux à réaliser des gestations pour autrui à l'étranger, on a rendu extrêmement complexe le système, l'établissement de la filiation de cet enfant. On ne va pas reconnaître cette filiation qui est pourtant établie à l'étranger et on va demander aux parents de passer par une procédure en adoption afin de pouvoir faire reconnaître le lien de filiation de celui qui n'est pas, on va dire, le géniteur de l'enfant ou de celle, pour les couples hétéros pour le coup, qui n'a pas accouché, ou dans un couple de femmes, celle qui, évidemment, toutes les deux, du coup, n'ont pas accouché dans un couple de femmes. Donc il y a des modes d'établissement de la filiation qui sont différents selon les modes de conception et quand ils peuvent exister. Parce qu'il y a des situations, et Dominique l'a dit, où on ne pourra pas établir la filiation de l'enfant dans, par exemple, les projets dits ou les familles pluriparentales. Le droit français ne reconnaît que deux parents, à l'exception, on va dire, de l'adoption simple. On peut avoir un troisième parent par l'adoption simple, mais lorsque on a plus de... L'adoption simple ne se met pas facilement en place dans ces configurations-là, d'une part, et puis d'autre part, lorsqu'on a quatre parents, il y en a au moins un qui sera sur la touche, voire probablement deux. Donc, voilà, c'est pas tout à fait simple encore aujourd'hui, même s'il y a eu évidemment des évolutions énormes. Dominique parlait tout à l'heure du mariage pour tous qui a permis aux familles homoparentales d'être reconnues lorsqu'elles passaient par la voie de l'adoption. Alors, ça pouvait être l'adoption intrafamiliale ou l'adoption d'un enfant, d'un pupille de l'État, par exemple. Mais ça ne résolvait évidemment pas tout. Et aujourd'hui encore, on est quelque peu handicapé de manière générale. Hein. C'est quand même pas évident.
Est-ce que la judiciarisation, c'est quelque chose de commun à beaucoup de parents LGBT? La judiciarisation de leur accès à la parentalité? Enfin, c'est-à-dire le fait de devoir saisir la justice pour reconnaître.
Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est pour l'adoption, ça a toujours été le cas. C'est un mode de parenté qui est particulier, hein. Mais cette judiciarisation, effectivement, que ce soit dans la reconnaissance d'un lien de filiation établi à l'étranger ou dans ce qu'on appelle l'établissement, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est relativement compliqué, est une volonté du législateur de faire en sorte qu'il y ait un contrôle. On va pas établir la filiation si facilement. On l'établira via le contrôle du juge. On pense là notamment aux gestations pour autrui, où il a fallu quand même que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France hein, pour qu'elle soit forcée quand même de reconnaître la filiation entière de l'enfant né de gestation pour autrui. Mais la Cour européenne a admis que la France avait, comme d'autres pays, le choix du mode d'établissement. Et donc, la France impose cette reconnaissance dite judiciaire pour que le juge français puisse, aujourd'hui, on peut le dire, contrôler les conditions dans lesquelles la gestation pour autrui s'est déroulée. Par exemple, c'est un exemple.
Donc même s'il y a mariage, il n'y a pas de présomption de parenté?
Toujours pas. Toujours pas. Et pourtant, c'est pas faute pour la PGL, notamment, d'avoir milité à de très nombreuses reprises pour que, comme en Belgique, notamment, on puisse considérer que lorsqu'on est marié à la femme qui accouche, on doit pouvoir être présumé parent. Aujourd'hui, ça n'est évidemment que dans le cas des couples hétérosexuels, puisque lorsque l'homme est marié à la femme qui accouche, il est présumé père. Et ça s'en arrête là, pour l'instant, en France.
Alors, on a parlé de judiciarisation. Comment la jurisprudence, c'est-à-dire les jugements rendus sur des affaires, peut permettre de rendre la loi plus égalitaire? Je pense notamment au cas de Claire, première femme transgenre reconnue comme mère par la justice. Si tu peux nous en dire quelques
mots. Ah oui, c'est vraiment un parcours judiciaire que la PGL a porté aux côtés, bien sûr, de l'avocate de Claire, en s'immisçant vraiment dans cette procédure pour aider, évidemment, à la reconnaissance de ce lien de filiation. Alors, quelle était l'histoire? C'est une femme trans, donc une femme à l'état civil, qui, comme elle le pouvait, comme les personnes trans le peuvent depuis 2016, n'ont pas besoin de changer d'état civil en n'étant en subissant une réassignation, on va dire médicale. Donc, pour être clair, on peut garder ses capacités reproductives de son sexe d'origine tout en changeant d'état civil. Et dans son couple, cette femme trans a eu un enfant et à la naissance de cet enfant a voulu être reconnue comme mère de l'enfant puisqu'elle était femme à l'état civil. Et ça a été 8 années de parcours judiciaire afin qu'effectivement une cour d'appel, la cour d'appel de Toulouse, qui a fait preuve d'une grande créativité juridique et de beaucoup d'humanité, disent clairement qu'on ne pouvait pas imposer à cette femme d'être considérée comme père et d'établir sa filiation via, par exemple, une reconnaissance paternelle. Donc, effectivement, les juges, là, ont évidemment compris le côté impératif de reconnaître dans la parenté l'identité de la personne concernée. Donc oui, effectivement, une femme trans est mère, et heureusement, heureusement.
On a évoqué le contexte légal actuel autour de la parenté pour les personnes LGBT. On va se tourner vers les études de terrain menées par Virginie de Couture, sociologue. Avec l'ouvrage « Les mères lesbiennes » issu de ta thèse de doctorat, tu as interrogé la norme maternelle, c'est-à-dire la norme maternelle, ce que la société attend d'une mère, quoi. Tu as participé à la première étude à grande échelle sur les familles homoparentales en France portée par l'Agence nationale de la recherche, intitulée « Homoparentalité, fonctionnement familial, développement et socialisation des enfants ». Alors, Peut-être déjà une question comme ça. Être parent gay, lesbienne, trans, est-ce que ça permet d'échapper aux normes hétérosexuelles? Comment les stéréotypes de genre s'appliquent ou pas aux familles LGBT+? Ouf.
Alors aux normes hétérosexuelles, oui, puisque tu n'es pas en couple hétérosexuel, mais aux normes hétéronormatives, peut-être moins. Mais ta question est énorme. Ce que je voudrais... Il y aurait tellement de choses à dire. La première recherche que j'ai menée dans le cadre de ma thèse de doctorat en sociologie, c'était avant le mariage pour tous. Donc c'était avant 2013. Et j'ai fait une enquête, comme on fait en socio, par entretien, avec des familles, notamment, et je pense que c'est pour ça que je suis ici, parce que j'ai un long compagnonnage avec la PGL. C'était des familles qui étaient adhérentes à la PGL, qui avaient accepté de répondre à mon enquête. Et à l'époque, on était... Fallait juste, même d'un point de vue socio, pouvoir défendre l'idée de s'interroger sur ce que c'est qu'un parent. Parce qu'en fait, les parents hétéros, comme c'est la norme, on n'interroge pas ce qu'ils font au quotidien. Et donc moi, j'étais partie du principe que j'étais pas justement juriste et que la question, c'était pas de savoir si ils avaient des droits ou pas, mais de voir ce qu'on faisait au quotidien. Et donc de ne pas entrer non plus par le mode de conception. Donc j'avais des parents... Alors je voudrais juste dire un truc, l'adoption en vrai, les pupilles ou l'international, c'est peanuts aujourd'hui. Il n'y a plus d'enfants à l'adoption internationale. Donc c'est principalement par des modes de procréation assistée ou pas. Et j'aimerais bien aussi revenir un peu là-dessus parce que à la fois... C'est-à-dire que les droits sont pas encore égaux, comme on l'a dit à plusieurs reprises. Et à la fois, en 20 ans, c'est incroyable. Enfin, un peu plus de 20 ans, c'est assez incroyable. Moi, ce qui m'a donné envie de travailler sur ces questions, c'était vraiment des questions qui concernent la citoyenneté, en fait. C'est-à-dire que le Pax ne passe pas en 98. Et je suis très étonnée, parce que comme... Enfin, je suis toute jeune, mais... Comme on m'avait dit qu'on était libre et égaux en droit, il me semblait que tout le monde pouvait accéder. Donc je découvre petit à petit, comme certains et certaines d'entre vous, j'imagine aussi, que la sexualité et les modes de... parce que ce n'est pas qu'une question sexuelle, c'est-à-dire de pratique sexuelle, mais c'est aussi toute une culture, la culture LGBT, qui échappe... à des possibilités d'exercer, de vivre avec des familles, de transmettre ses biens, de transmettre son nom. Et donc, il y a eu À l'époque, on parlait beaucoup d'ordre symbolique. Et une des raisons pour lesquelles la PGL n'a pas pu rentrer à l'UNAF pendant si longtemps, c'était bien aussi, c'est une bataille symbolique, c'est-à-dire d'exclure des personnes qui n'ont pas une sexualité respectable et d'invisibiliser aussi ces modes de famille. Aujourd'hui, toujours, il n'y a pas une catégorie à l'INSEE famille homoparentale ou famille hétéroparentale, parce que ça mettrait tout le monde sur le homo, ou faudrait trouver aussi LGBT parental, parce que ça mettrait justement tout le monde au même niveau. Et comme la parenté s'organise avec cette fameuse différence des sexes, qu'il faut des gamètes mâles et des gamètes femelles pour faire des enfants, on a vraiment du mal. Et je trouve que tu as raison de rappeler la volonté de contrôle, parce que pas seulement en Belgique, au Québec aussi, ça fait depuis 2005, la présomption de maternité, elle a été posée comme telle. Dans un couple marié, en vérité, et c'est bien pour ça que le droit l'appelle présomption de paternité, c'est qu'on ne va pas faire un test ADN pour vérifier que le mari est bien le père de cet enfant. Donc, en fait, la plupart des familles, bon, bah, y a une correspondance entre la biologie, la parenté, etc. Mais en vérité, la parenté, c'est d'abord et avant tout social. Et la question de la reconnaissance de ces familles, c'était de pouvoir aussi... Enfin, un des trucs, pour revenir sur ta question, c'était aussi, à un moment donné, la nécessité de se rendre légitime. Parce que pour être admis par la norme, enfin, ce que connaissent tous les dominés, hein, pas seulement les minorités sexuelles, mais ce que connaissent toutes personnes dominées, c'est que pour accéder à des droits, il faut se rendre respectable et faire patte blanche, comme on dit, quoi. Et donc, moi, ce que j'avais observé, alors, c'est dans la première enquête, c'était en effet des parents qui avaient aussi énormément de pratiques, je sais pas si vous vous reconnaissez, si c'est encore le cas aujourd'hui, aussi dans des pratiques d'hypercorrection, à faire toujours mieux pour ne pas être méjugé, mal jugé, donc montrer tous les signes. Je me souviens, à l'époque, on parlait beaucoup de référents. Il fallait qu'il y ait des référents paternels dans les familles lesbiennes, des référents maternels dans les familles gays, comme si le reste du monde n'était pas présent. Enfin voilà, les familles, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des non-binaires aujourd'hui aussi. Et il y avait vraiment cette peur qui d'ailleurs a complètement... Qui s'assume moins. Enfin, je veux dire, le fait que l'ordre symbolique va s'effondrer, c'est-à-dire que la civilisation s'effondre, c'était ça, hein, quand même, à la fin des années 90, au début des années 2000. Les familles homoparentales mettaient en danger l'ordre social. Hein, rien de moins que ça. Aujourd'hui, ça s'est un peu déplacé sur les familles trans, les queer, les personnes trans aussi qui vivent quand même des discriminations les plus graves, mais qui pèsent aussi sur les familles LGBT. Donc, moi, ce que j'avais observé, c'était... Alors après, il y avait un truc de classe aussi, c'est que, bah, évidemment, les personnes qui voulaient bien passer du temps... Alors moi, j'étais accueillie chez les gens, je passais parce qu'on peut pas faire d'ethnographie, parce qu'il n'y a pas un village lesbien, vous voyez, voilà, non, ça n'existe pas, les lesbiennes sont aussi des femmes comme les autres, etc. Donc, mais bon, on passait du temps, voilà, donc j'en profite aussi pour remercier aussi toutes ces personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont accueillie, et voilà, et bon, concrètement, le job, hein, c'est, faut se lever la nuit, faut torcher les gosses, il faut les emmener à l'école, il faut les éduquer, il faut leur dire de ne pas regarder les écrans, enfin, le job, c'est le même, et à la fois, et quand même, je trouve que, et bien sûr qu'il y a le rapport de classe aussi qui joue, que moi j'avais plutôt des familles de classe sociale moyenne supérieure, qui étaient déjà des gens plus légitimes socialement. Mais pour gagner de la légitimité, bah, c'est plus facile quand on occupe d'autres positions sociales qui le sont déjà. La victoire, ça sera quand on aura majoritairement des classes, des mères lesbiennes, et enfin des parents LGBT de classe populaire. C'est que là, vraiment, la catégorie famille homoparentale sera complètement réalisée, comme dirait Bourdieu.
Dans ta recherche, oui, tu as fait donc tu as étudié les mères lesbiennes et tu as fait ressortir cette notion de compétence parentale et de comment elle s'organise en fait cette compétence parentale dans les couples homoparentaux.
Oui. Alors pourquoi les mères lesbiennes? Parce que bon, pour plein de raisons. Au début, j'étais pas sur les femmes, mais j'avais un collègue qui avait choisi les pères gays, donc je m'étais dit ok, je suis légitime à prendre les femmes. Bon, sachant que moi j'ai fait ma thèse sans financement, j'avais demandé une alloc à la CAF qui avait refusé parce que c'était perçu comme un travail militant. Hein, il y avait Martine Gross a montré aussi tout ça, la manière dont l'illégitimité des familles pesait aussi sur des objets de recherche. Enfin voilà, tout ça fonctionne ensemble. Et en fait, aussi, un des trucs... Donc moi, je travaille dans une perspective genre et sexualité, c'est-à-dire dans une perspective féministe. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était d'interroger l'injonction des femmes à la maternité. Donc qu'est-ce qui se passe quand des femmes dont on n'attend surtout pas qu'elles fassent des enfants parce qu'elles sont lesbiennes et que du coup elles sont en dehors de l'humanité, mais ça va aussi pour les hommes gays, hein, font des enfants, qu'est-ce que ça fait aussi à la société hétéro-parentale, hétéro-patriarcale et notamment, ça a eu des effets, le mariage pour tous a permis de rendre le droit moins sexiste, pour les hétéros aussi, par exemple en matière de transmission du nom, en cas de désaccord entre les parents, c'était le nom du père qui primait. Et puis bah, quand il y a deux papas, deux mamans, on ne peut plus dire en cas de désaccord, c'est le nom du père. Donc du coup, il y a eu une organisation de la hiérarchie qui s'est faite sur l'ordre alphabétique. Donc c'est devenu des choses comme ça. Ta question, c'était... Voilà. Et les
mères... s'organisent les compétences parentales dans
les compétences parentaux. Bah, je crois qu'aujourd'hui, on dit plus trop. Mais moi, c'était dingue. Hein, mais quand j'y pense, c'était les gens cherchaient qui joue le rôle de l'homme et qui joue le rôle de la femme.
Qui porte la culotte, quoi.
Oui, alors même qui porte la culotte, c'est aussi très. Enfin, parce que les femmes peuvent porter la culotte, c'est aussi ce qu'on leur dit justement pour déviriliser les hommes. Mais en tout cas. Il fallait qu'il y ait cette projection de rôle, justement, ce qu'on appelle les rôles modèles, les sex role models, etc. Et c'est vrai, alors oui, c'est ça où tu veux m'emmener, je vois, pardon, il y a tellement de choses à dire. C'est sur le fait que ma thèse a permis aussi de dénaturaliser la maternité, puisqu'on attendait toujours que la mère la plus maternante, ce soit la mère gestatrice, la mère génitrice, la mère accoucheuse. Et ben, manque de bol, c'est pas toujours le cas. Non pas parce que, donc, les familles, les mères lesbiennes, quand bien même elles sont des lesbiennes et pas des femmes, comme dirait Wittig, elles n'en restent pas moins inscrites dans une société organisée par le patriarcat, avec des différences de salaire, avec des fonctions, voilà. Et donc, j'aime bien cette expression, c'est qu'il faut, il n'y a pas besoin d'un phallus dans le, enfin voilà, il n'y a pas besoin d'un phallus dans le couple ou d'un pénis dans le couple pour qu'il y ait du phallus. C'est-à-dire que, quand les couples, je ne sais pas si vous y reconnaissez ou pas, mais les positions sociales occupées déplient justement des salaires, de la notoriété ou pas. Et donc, ce que font les femmes, toutes les femmes, hein, pas que les hétérosexuelles, les lesbiennes aussi, c'est que ce qu'on appelle maintenant, alors maintenant c'est la mode, etc. Et c'est pas la charge mentale, c'est pas les blogueuses qui l'ont inventé, hein, c'est les économistes et les sociologues féministes des années 70. Ce qu'elles ont bien montré, c'est qu'en fait, ce qu'elles payent, enfin c'est pas la plus-value, c'est leur disponibilité. Et donc, la disponibilité, elle porte toujours sur la personne qui a le salaire le moins élevé. Et c'est pas toujours la mère gestatrice qui occupe, voilà, la mère qui a accouché, ça peut être une physicienne, directrice de recherche au CNRS.
Tu as eu parmi ton échantillon de
personnes
interviewées.
Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et la mère qu'on pourrait dire maternante, celle qui va penser à faire le gâteau pour le goûter à l'école, qui va penser à acheter les fringues, parce que ah oui, il y a le jogging, là, il est troué, qui fait ça sur son, parce que l'autre aussi, elle taffe, hein, c'est pas qu'elle fait pas rien. Mais, disons, donc elles sont en train, mais voilà, prendre son mercredi, le 80%, etc. Bon, bah c'est le plus petit salaire qui généralement. Donc chez les hétéros, ça se passe comme ça. C'est ce qui explique que les femmes, bah voilà, ont des carrières moins complètes, sont plus souvent à temps partiel, etc. Mais ça existe aussi donc dans les couples de femmes, puisque, alors moi j'avais beaucoup de femmes qui partageaient des positions sociales proches, infirmières, employées, profs, beaucoup de profs aussi. Donc quand les deux partagent les mêmes positions sociales, bon bah là la distance, il y a moins d'inégalités. Mais à partir du moment où la différence, la position sociale, la position du métier dans le salaire est différente, et on retrouve là des seuils aussi d'inégalités. Donc la compétence que tu appelles maternelle n'est pas biologique. Il ne s'agit pas d'avoir accouché d'un enfant pour être tendre, s'en occuper. Je pense que les mecs, ils doivent se dire, bah, nous aussi, c'est pareil, en fait. On n'accouche pas des enfants et pourtant, on peut être tendre et maternant avec des enfants. Mais voilà. Et un dernier mot, je pense que le truc, c'est qu'avec Simone de Beauvoir, qui avait dit que la maternité, c'était vraiment l'aliénation des femmes, les féministes ont laissé complètement tomber l'étude de la maternité et l'a laissée à la psycho. Et donc, on est sur les trucs, l'instinct maternel, enfin, tous ces trucs quand même un peu biologisants. Et l'idée que j'avais, c'était pas seulement de faire un petit voyage en exotisme lesbien, hein, c'était vraiment ce qu'on fait souvent aux sociaux, c'est pas mon originalité, mais c'était passer par la marge. Et la marge, donc, c'était les familles homoparentales qui, à l'époque, n'avaient aucune reconnaissance pour, en vérité, révéler, rendre compte de ce à quoi toute mère, donc y compris la majorité hétérosexuelle, avait à accomplir pour pouvoir exister socialement.
Dominique, tu as envie de réagir, je te vois rapprocher le micro. Sur les papas et les compétences parentales et le fait de, est-ce qu'il y a une dévirilisation quand on prend des compétences associées aux mères?
Moi j'ai vu une évolution en tout cas. Enfin, j'ai entendu une évolution, je ne sais pas si elle préexistait avant, mais par exemple, dans les couples de GPA, jusqu'à une certaine époque, il était de coutume de parler du père biologique et du père non biologique. Et progressivement, on a vu s'effacer cette espèce de dogme pour favoriser plutôt une mutualisation de la paternité, et sans qu'aucun des deux se déclare le père bio vis-à-vis du père non bio. Et tant et si bien que les frontières se gomment. Voilà. Donc il y a toute une réflexion en fait hein, sur dans le couple d'hommes entre autres, mais pas que, sur la place de l'un et de l'autre, sachant que ça peut être un sujet difficile, savoir lequel des deux fournit les gamètes qui vont aboutir à l'arrivée de l'enfant, ce qui peut être dans un couple de femmes également. Mais ce qui est très intéressant à la PGL, c'est la mixité des parcours, des personnes, et bien souvent de se rendre compte que les questions posées ou vécues ou traversées par les couples de femmes se retrouvent dans les couples d'hommes. Alors, pas évidemment de la même façon, mais et les préoccupations et les évolutions. Et ça, c'est la force de notre association, c'est d'avoir toujours donné à voir et entendre les parcours des uns et des autres. Non pas pour égaliser, parce que c'est pas le sujet, mais pour se dire que, pour voir que, on est en fait en train d'inventer quelque chose et on l'invente ensemble. Quand je dis inventer, c'est dans le sens oser aller au-delà de ce qui existe. C'est pas toujours simple. Alors, je rejoins Virginie, il y a des couples d'hommes où on va retrouver une polarisation comme dans un couple hétéro, hein. À raison de ce que tu expliques également, c'est souvent celui qui a le salaire le moins important qui va s'y coller. Bon.
Oui, mais c'est ça, c'est des raisons sociales et sociologiques.
Oui.
Il n'y a pas le gène là qui te fait faire de la mécanique ou des bons petits plats, quoi.
Non, mais en même temps, en droit français et même plus qu'en droit, par exemple pour les femmes, la mère c'est la femme qui accouche. Et on retrouve quand même, à la fois en justice d'ailleurs, hein, quand il s'agit de séparation, de couples de femmes en l'occurrence, et de savoir où l'enfant va aller quand il y a un contentieux. Il y a eu quand même, pendant longtemps après le mariage pour tous, pendant un certain nombre d'années, le fait qu'il était évident pour les juges que, comme dans un couple hétérosexuel avec un enfant en bas âge, l'enfant résiderait chez sa mère, entendu la femme qui avait accouché. En tout cas, ça s'est transformé. Dans les couples de femmes, ah oui, elle a accouché. Alors il y avait la question de l'allaitement évidemment qui peut venir un peu perturber, mais il y avait quand même cette espèce d'a priori qu'on retrouve aujourd'hui toujours. Hein, et on a vraiment un focus, et c'est pour ça qu'on a tellement de mal à comprendre notamment la gestation pour autrui. Mais la femme qui accouche et la mère, c'est quelque chose qui reste quand même dans les voilà, au-delà de effectivement. Tout ce que tu as dit qui est hyper intéressant sur qu'est-ce qui fait la différence. Il y a des fonctions différentes dans un couple en fonction surtout évidemment des normes sociales ou des impératifs sociaux ou de la catégorie socio-professionnelle, des salaires et au-delà de la place de l'homme ou de la femme dans le couple. Mais il y a aussi beaucoup cette question-là quand même qui joue toujours. Hein, la mère, c'est la femme qui accouche.
On va faire une petite pause musicale avec Double Papa de Aldebert et Calogero.
Il était une fois le fruit d'un amour hors pair. L'histoire de Camille et de ses deux pères. L'important, tu sais ma fille, ce n'est pas toujours de donner la vie, mais de donner l'amour.
Nous sommes tes ailes, deux papas pour toi, deux îles sans ailes, on s'est battu pour ça. Apollo résonne quand sur terre tu poses le pied, un petit pas pour l'homme, un grand pour la paternité.
Enfin nous voilà, famille, si fière ma chère, tu troubles nos voix, la vie ne tient qu'à une fille. De pair, rien ne nous atteint quand la tendresse opère.
Laisse le feu des débats attiser les problèmes. Devant tant de joie, il s'éteint de lui-même.
Vivons de rires capturés, de ricochets sur les lacs, de volcans dans la purée et de sauts dans les flaques.
On le sait, tout ira bien tant qu'on verra ce symbole, ce cœur avec les deux mains.
Fenêtre des écoles.
Enfin nous voilà, famille si fière, ma chère. Tu troubles nos voix.
La vie ne tient qu'à une fille, un père, repère, un double papa. Ah, un double papa.
Cette photo de famille, tes deux grands-mères te regardent entrer dans la vie.
Il était une fois le fruit d'un amour hors pair, l'histoire de Camille et de ses deux pères.
Enfin nous voilà, famille si fière, ma chère, tu troubles nos voix,
la vie ne tient qu'à.
Vous venez
d'écouter Double Papa de Aldebert et Calogero. Vous êtes toujours sur Radio BLV, Radio Couleur Chartreuse, Radio Royan Vercors et Radio des Boutières. Une émission spéciale ce mardi 19 mai depuis l'auditorium de la médiathèque François Mitterrand à Valence à l'occasion des 40 ans de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens.
Mes copains, ils s'en fichent un petit peu. Oui, ils savent que j'ai deux mamans, mais ils ne posent pas totalement de questions. Hein. D'accord.
J'y parle pas trop aux inconnus, ceux qui sont pas mes meilleurs potes. J'explique qu'à mes meilleurs potes, c'est tout. Ils ont dit une très belle formation, ils ont dit. Très belle histoire, ils ont dit.
D'abord, ils me disent comment t'as fait pour être née avec deux mamans. Il y en a qui disent que ça se peut pas, il y en a d'autres qui disent ok et qui repartent. Bah, je leur réponds que si, ça se peut.
Quand elle venait me récupérer à l'école, avant je disais, j'étais plus petite, que c'était ma tante.
Je sais pas, j'avais honte. Mais maintenant, je m'en fous.
Je pense que ils ont une vision réduite et que si ils vivraient ou que si un des proches de leur famille vivrait ça, je pense qu'ils seraient beaucoup plus tolérants. Avec le temps, ils acceptent plus de choses, hein, je pense.
Après, ça s'appelle la maturité.
À l'école primaire, c'était même toujours quand on te pose la question, ouais, tes parents, toi, ils font quoi? Ils s'appellent comment? On essaye un peu de vesculer la question, mais ça le fait. Après quand ils nous connaissent, ils savent. Hein. Ça fait rien du tout. Oui, il y a eu un collègue, il était surpris parce qu'il savait pas tout. On était jeunes, et ils connaissaient pas tout. Ils se demandaient comment on était arrivé là, alors qu'il y avait pas le, il y avait deux sexes pareils. Et du coup, bah, ils se posaient des questions. Ben, je pense que sa mère lui a expliqué après, quand ils ont appris à nous connaître.
Des fois, ils connaissent bien ta famille, mais ils te posent quand même des questions.
Taquiner pour savoir, je pense.
Bah, c'est chiant un peu parce que, enfin voilà, quoi, c'est à peu près tout le temps, mais là, il n'y en a plus.
Le fait que leur relation à elles deux ait pu être acceptée par leurs parents, automatiquement, en tant qu'enfant, j'ai été accepté par mes grands-parents. Et du coup. Ben, quand dans un cocon on est rempli d'affection et de bonheur et d'amour, je pense que ça aide vachement. Aussi pour l'épanouissement personnel, et c'est vrai que au travers des discussions qu'il y a pu avoir, et surtout le fait qu'il n'y a jamais eu de tabou. En primaire et au collège, c'était très décomplexé. J'ai pas de souvenir, en tout cas, de réaction qui aurait pu me blesser en disant c'est pas normal. Vu que c'est pas quelque chose que j'ai caché, ou peut-être quelque chose que j'avais honte de pas être comme tout le monde, pour moi, en fait, c'était normal, en fait, d'avoir deux mamans, enfin, au même titre que d'avoir un papa et une maman, ou d'avoir deux papas. Il n'y avait pas de questions qui se sont posées. Je pense que c'est une force. Ben, c'est toujours une force. Et j'ai envie de dire que ça relève aussi de la manière dont c'est appréhendé et dont c'est appréhendé au sein du cocon familial. Moi, il n'y a jamais eu de tabou. Pour moi, c'est ma norme. Qu'est-ce qui est plus différent d'avoir des parents du même sexe que des parents du sexe opposé? Ben, je veux dire, moi, quand on me disait, par exemple, ben, j'ai un papa et une maman, ben, c'est pas plus bizarre que moi d'avoir deux mamans.
On vient d'entendre des témoignages d'enfants de différents âges. Est-ce que vous voulez réagir déjà à tout ce qu'on a entendu? Il y a plein de choses qui ont été posées par ces enfants.
Oui, alors, les enfants restent des enfants. Bon. Quelle que soit la composition de leur famille. Ce qu'on n'entend pas, en fait, c'est leur capacité à appréhender le fait qu'ils sont d'une famille différente des autres. Ça ne se mesure pas, ça ne se quantifie pas. Et nos enfants, ces enfants, on essaie, en tant que parents, je disais ça tout à l'heure, Virginie, on essaie de leur donner le maximum pour se protéger, savoir réagir, s'adapter. Et donc, ce qu'on entend là, il faut faire attention. Parce que, certes, moi, je ne doute pas de la sincérité, de la vérité. La vérité sort de la bouche des enfants. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est tout le processus mental qu'ils ont quand même dû utiliser ou mettre à profit pour banaliser, en fait, une situation que leurs petits camarades, souvent à l'injonction des adultes, hein, viennent pointer du doigt en disant « mais t'as deux papas ou deux mamans, c'est pas possible ». Donc ça, faut pas l'oublier. Voilà. En revanche, ce qui est vrai, c'est que, fort heureusement, depuis 40 ans et depuis 10 ans, les choses se banalisent aussi. Donc, c'est plus extraordinaire dans beaucoup de situations d'avoir des familles à l'école qui ont deux papas, deux mamans ou pluriparentalité. La question se pose différemment. Les choses bougent. Hein, on le voit bien. On est de moins en moins dans en fait des pères, fête des mères, même si ça existe toujours. Et de plus en plus en fait des parents. Et voilà, il y a quand même, on voit que les choses se diffusent, s'infusent la société. Mais voilà, moi je suis très attentif à tout ça. Catherine et moi et la PGL, nos enfants sont à la fois formidables parce qu'ils nous protègent.
Oui, alors ce que montrent des petites enquêtes sur les enfants, c'est aussi que en fait ça bouge avec l'âge. C'est-à-dire que quand ils sont très jeunes, de toute manière les parents sont beaucoup là dans le compte aussi. Les parents protègent aussi beaucoup et contrôlent en fait beaucoup. Moi, j'avais vu aussi des parents quand même surinvestis dans les associations de parents d'élèves, les trucs sportifs. Enfin, et c'est pas juste parce que c'est que des super parents. C'est aussi parce que c'est une manière de vérifier. Enfin, d'abord se faire connaître. On revient à la respectabilité aussi. Et puis à contrôler que tout se passe bien aussi, parce que les homoparents sont des personnes inquiètes. Justement des souffrances, des discriminations que peuvent subir leurs enfants, et ils les subissent aussi, parce que, enfin, moi je sais pas, je pense à tous les enfants queer qui ont vécu la manif pour tous, mais quel vieux, enfin voilà, ça a dû être vraiment très déflagrateur. Et voilà. Et donc, quand ils sont plus petits, ils disent facilement, parce qu'en fait, comme les parents se connaissent, c'est après à l'adolescence où ça devient un peu au collège, là, ils aiment moins dire. Et puis, de nouveau, après le lycée, ils sont plus autonomes, ils choisissent leurs amis aussi dans des cercles, où ils vont être mieux. Plus. Et moi, je suis prof je suis maîtresse de conférence à la fac d'Amiens. Et ben, moi, ça y est, après, évidemment, je fais les cours de sociaux de la famille. Donc, moi, évidemment, dans ma manière de parler tout le temps, c'est très. Enfin, il y a toute forme de famille, etc. Mais ça fait quelques années que je commence à avoir des jeunes étudiants qui disent facilement vous savez, moi, j'ai deux. Alors, j'ai pas encore eu. Des enfants GPA d'une vingtaine d'années. Mais j'ai eu plusieurs fois vraiment des. Alors, c'est pas la moitié du cours, hein, de l'amphi, mais voilà, ça fait partie de la vie. Et y compris, ce que je voulais dire aussi, y compris parce que quand on est dans la Drôme, on n'est pas à Paris. Parce que moi, y a, dans les villes, il y a quand même une plus forte présence de familles homoparentales. Et donc là, en l'occurrence, c'est des gens qui habitent aussi des villages de la Somme. Et je pense que ça dit aussi probablement... le mariage a quand même légitimé la possibilité de vivre sa vie queer, pas que dans l'anonymat, parce qu'évidemment, il y a des endroits où on ne peut pas être anonyme. Mais ça pose ces questions-là aussi, quoi.
Tu fais bien de dire que c'est pas une question de, enfin, c'est pas tant une question de géographie que d'ambiance, je dirais. Effectivement, je te rejoins entièrement. On a des adhérents et adhérentes qui vivent dans des endroits extrêmement, j'allais dire reculés, mais en même temps en proximité avec leur environnement, l'écosystème que ils sont, et généralement eux n'ont aucun souci. En fait, on a aussi cette capacité à ne pas voir les situations difficiles. Donc, il y a quand même encore une large part de choses qu'on ingère en faisant avec, parce que on est aussi, alors peut-être une question de génération, je ne sais pas, habitué aussi à encaisser, on tolérer ce minimum d'homophobie, j'allais dire, tant que ça n'atteint pas des parce que voilà, on va être gentil avec ceux qui savent pas trop, finalement, savoir comment nous appeler, jusqu'à un certain point.
Un exemple pratique dans tout ça, justement.
Très classique. Laquelle de deux est la vraie maman? J'arrive à la crèche. Bonjour madame, bonjour madame. Alors, laquelle de deux est la vraie maman? Voilà. La question, elle est peut-être légitime pour des raisons pratico-pratiques, mais posée comme ça, vous imaginez bien que c'est juste inacceptable. C'est inacceptable.
Eh bien, on va écouter la prochaine suite de témoignages, la toute dernière.
Il y a une chose qui est certaine, et ça, on est plusieurs à en parler ensemble, c'est que on a l'impression que on nous attend au tournant. Alors peut-être ça vient de nous, mais on sent qu'il y a un regard quand même qui est porté sur nos familles, et on se dit des choses bêtes, hein, mais il faut vraiment faire attention à comment je vais l'habiller, ou il y a une petite saleté sur son visage, il faut vraiment que je la nettoie tout de suite, parce que on a l'impression qu'on est jugé quand même sur notre capacité à être parent, juste parce que il manque quelque chose aux yeux de la société. Il manque une maman, ou il manque un papa. Alors, c'est plus souvent les mamans, parce que c'est quand même elles qui portent quand même pas mal la charge de l'éducation des enfants dans la société patriarcale dans laquelle on vit. C'est vrai qu'on a la sensation que on n'a pas le droit à l'erreur. Alors, tant mieux, ça fait qu'on se questionne beaucoup et on prend du recul, mais au quotidien, c'est pas toujours facile. Même si c'est pas forcément toujours conscientisé par les personnes qui portent ce regard-là, il y a quand même ce poids qui est toujours un peu là.
Clairement, moi, ce qui me fait peur, c'est sa scolarité. C'est le mettre dans une école dans laquelle ils comprendront pas qu'il a deux mamans, parce que beaucoup d'enseignants sont pas forcément formés pour ça, parce que les autres enfants sont aussi méchants entre eux, qu'il y a beaucoup de parents qui sont pas ouverts là-dessus non plus. Donc, c'est plus lui donner les armes à lui pour qu'il puisse se défendre à l'école verbalement, pas se défendre bien sûr physiquement. Et après, je pense que la peur que je pourrais avoir, c'est le fait que lui soit différent. Dire nous, on a souffert de notre différence, on a vécu dans un monde qui était pas évident pour nous, qui change aujourd'hui. Mais je me dis, si lui, il vit son parcours aussi avec un pas de côté, comment est-ce qu'il va le vivre demain ? J'ai juste peur pour lui, quoi, plus que pour nous en tant que tel.
La société, elle peut aussi évoluer dans un côté d'ouverture, quoi, et de tolérance. Et moi, je veux m'accrocher à ça. Enfin, je vois ça, quoi. Si mon enfant, il est bien équipé de confiance en soi, d'estime de soi, et il pourra tout traverser, en fait.
Alors, ça va être le temps des questions du public. Ilan et Héloïse, qui sont là pour vous passer le micro, vous pouvez leur faire signe. En attendant qu'il y ait les premières questions, déjà, qu'est-ce qui vous ferait réagir dans ces témoignages que vous venez d'entendre du côté des parents cette fois et du regard de la société?
Oui, l'injonction à être un super parent, ça c'est quelque chose qui peut-être va être moins important que par le passé. Mais oui, ça aussi c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu quand on est homoparent et qu'on vit. Il faut que les enfants... Vous voyez, dans le cinéma, par exemple, les films qui vont parler d'homoparentalité, les enfants vont bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Enfin, il y a véritablement une injonction à être un super parent parce qu'on craint après le jugement du fait d'une famille atypique. Et de la même manière, l'enfant... Alors, on parlait tout à l'heure de forme de... Il y a une question d'éducation, évidemment, mais pour tout le monde, que ce soit une éducation à l'école pour que les enfants apprennent, évidemment, que dans la société, il y a des enfants qui sont différents d'eux. Ça ne vaut pas que pour les homoparents, mais c'est quelque chose qui passe maintenant, qui passe un petit peu mieux. On parlait de formation des enseignants, on parle de programmes scolaires qui ont pour objectif de faire accepter la différence. C'est des choses qui évoluent et qui permettent évidemment aux enfants de vivre mieux leur différence ou la différence de leur famille, en fait. Donc oui, on a encore un peu ce sentiment d'injonction à être d'excellents parents parce que sinon on va être jugé parce qu'on est différent. Fort heureusement, je pense que ça, avec le temps, ça ira un peu mieux.
Ouais, et moi j'entends aussi l'injonction à l'hétérosexualité, hein. Pardon, mais du coup, moi je l'ai beaucoup vu, c'est-à-dire donc faudrait pas en plus que elle le dit la personne un pas de côté, c'est-à-dire que du coup pour elle, enfin il y a quand même cette idée que la norme c'est l'hétérosexualité et ne pas être hétéro c'est faire un pas de côté. On pourrait renverser le truc et dire en fait on est dans un monde organisé avec plein de sexualité et que tes enfants soient ce qu'ils veulent, on s'en fout quoi. Enfin on est vraiment pris dans les catégories parce que en plus hétéro, enfin tout ça c'est pas bon. comment dire, on pense avec ces catégories-là aujourd'hui, mais puis on voit bien d'ailleurs que c'est en train de bouger. Mais il y a cette idée que quand même, il faudrait pas, alors que par exemple d'un point de vue sociologique, la reproduction sociale pourrait faire que quand même les familles homoparentales produisent des enfants qui vont eux-mêmes devenir homo, si on pense aussi que la sexualité est une norme sociale, hein. Mais bon, ça c'est d'autres. Mais voilà, et je trouve que c'est, on verra justement quand ce verrou-là aura sauté, de pas de se dire mais on s'en fout. Mais je pense qu'alors déjà les hétéros ont du mal, mais alors je pense que si vous avez un enfant queer quand vous êtes parent queer, ouais, je pense que là c'est, enfin c'est pas je pense, c'est je vois bien le, mais c'est pour ça qu'il faut aussi juste un mot là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui concerne uniquement la PGL. Enfin, j'espère que dans cette salle il n'y a pas que des personnes concernées aussi, c'est-à-dire que on fait société ensemble pour accueillir toutes les familles avec voilà leur, et tous les enfants. Et c'est pas qu'une histoire de parents LGBT, ça nous concerne toutes et tous, quel que soit le prisme du genre ou de la sexualité où on est placé.
En attendant, juste avant que Dominique, si vous avez des questions, Ilan, Héloïse ont des micros. En fait, on essaie de pas avoir de temps mort comme on est à l'antenne. Et donc, nous, on peut meubler autant qu'on veut. Hein. Mais si vous avez des questions, faites signe, comme ça, on les prend les unes derrière les autres. Dominique.
Oui, deux choses. Donc, moi, j'ai un fils qui a bientôt 15 ans et qui me dit, avec mon mari Jérôme, vous êtes aussi chiant que les autres parents. Et donc moi, je sais pas, mais
c'est rassurant.
C'est ouais. C'est ça. Et je prends ça pour plutôt quelque chose, partie des joies des adolescents. Il a peut-être raison, mais en tout cas, je trouve ça tout à fait effectivement rassurant. Et il se trouve que ce que tu dis, Virginie, me touche moi. Alors je vais pas outer mon fils, mais voilà, je pense que mon fils. N'aura pas une orientation sexuelle dans la case hétérosexuelle, ce que je ne regrette pas du tout et ce que je ne condamne pas non plus. La seule point, si tu veux, c'est qu'à ce jour, voilà, comme tous les adolescents ou certains, en tous les cas, il est très secret, donc on n'arrive pas à savoir, même si on essaye, évidemment. Hein, mais on voit bien que voilà, et ben moi ça me rassure, voilà, honnêtement. Mais c'est peut-être con ce que je dis, hein, mais ça me rassure de savoir de me dire peut-être si mon fils est homo, moi je sais ce que c'est, donc voilà.
Et ce sera pas la même, voilà. Et le micro est dans le camp du public.
Je serais curieuse de vous entendre sur ce qu'amène l'expérience des femmes qui font la PMA seules, maintenant que c'est possible ici. Et c'est quoi leur place dans ce paysage familial et qu'est-ce qu'elles peuvent amener? Voilà, ça m'intéresserait de vous entendre là-dessus.
Et je peux pas parce que non, mais je peux vous en. Mais j'ai pas fait d'enquête là-dessus. Par contre, si ça vous intéresse, il y a une jeune femme qui s'appelle Margot Margot avec un OT Le Nouvel qui a fait une thèse là-dessus sur la maternité solo. Ouais, c'est super intéressant parce que justement. Ce qui est super, parce que la PMA, enfin là, la PMA solo, ça a fait exploser tous les cadres, puisque la question de la sexualité est plus au centre. Justement, on n'est plus dans la conjugalité, on est vraiment avec l'idée de faire un enfant avant que la deadline légale. Et ça, c'est un bouleversement total parce que il est transversal aux hétéros aussi. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui dit. Parce que, en fait, ce dont on ne parle pas suffisamment, enfin, c'est pour ça que j'ai essayé d'amener un peu le truc, c'est que les familles homoparentales, elles font quelque chose à la société hétéro-patriarcale. Et on voit bien, là, que depuis quand même 10-20 ans, bon, les normes de genre, ça interroge tout le monde. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est ceci? Le partage, la charge mentale? Enfin, vous voyez, tous ces trucs d'inégalité, en fait, entre les classes de sexe, là, comme disait Delphi. Et je trouve que, avec ce... Alors là, on est dans la libéralisation totale. C'est-à-dire que la maternité solo... Bon, et après, en face... C'est dur, hein. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des personnes, des opposants. Donc, lisez, la thèse n'est pas encore publiée, mais ça va l'être, parce qu'elle elle vient d'obtenir un poste et tout, donc voilà, vous en saurez. Mais moi, je peux pas, j'ai pas travaillé directement là-dessus. Mais c'est vrai que socialement, il se passe quelque chose. Et puis, je pense que de toute manière, les carrières sexuelles, parce que Dominique, excuse-moi, mais ton fils, il a 15 ans, voilà, ces trucs de projection, on peut aussi se projeter dans une société où tout ça va être beaucoup plus... Nos carrières sexuelles vont être... voilà, on aura moins besoin de penser... Après, ça dit quelque chose quand même, cet engouement des femmes à l'approche de la quarantaine pour la maternité, pour la PMA, ça dit aussi quelque chose des rapports sociaux de sexe, donc ça dit plutôt des choses aux hétéros que aux autres et du mal-être aussi quand même. Puis là, bon, la question sur, par exemple, dans la recherche, il y a eu le tournant sexuel à la fin des années 90, donc moi j'ai attrapé, parce qu'avant c'était très les rapports sociaux de sexe, la sexualité est arrivée dans les enquêtes, dans une perspective genre, et puis au début des années 2000, il y a les questions de violence qui sont arrivées. Et bon, et là, on voit bien que c'est vraiment les questions, enfin, en tout cas en sociologie, sur et qui concernent évidemment aussi la question des familles et de l'éducation des garçons à la sexualité, tout ça, quoi.
Catherine ?
Oui, alors c'est des configurations qu'on connaît bien à la PGL aussi, hein, la maternité choisie solo, la maternité solo choisie, à la différence évidemment de celle qui est due à des séparations et à des non-recompositions familiales. C'est quand même, elle est quand même mal considérée. Aujourd'hui, on voit dans les parcours de procréation médicalement assistée, il faut quand même être assez clair, quand on se présente dans un parcours de PMA en maman solo, c'est pas forcément facile. Enfin, le regard du monde médical n'est pas très très facile à gérer toujours. Mais voilà. Enfin, après, là aussi, forme un petit peu marginale, hein, de famille encore aujourd'hui, cette maternité solo choisie, puisque notamment l'accès à la PMA en France pour ces femmes-là est récente. Donc ça reste encore effectivement un peu à la fois marginal et donc un peu maltraité, on va dire. Enfin, je pense qu'on peut dire comme
Dominique,
ça.
Tu veux réagir?
Oui, parce que moi,
on passera le micro au public.
Bien sûr. Juste sur ce point-là. Quand il s'est agi d'ouvrir la PMA à toutes les femmes, on a embarqué les femmes solo. Et en fait, moi, je m'attendais à beaucoup plus de résistance dans l'élaboration de la loi, à bien des égards, hein, beaucoup plus de violence. Et c'est passé finalement relativement simplement, mais c'est a posteriori,
dans la loi.
Mais effectivement, comme si on s'était rendu compte après la loi, et nos les opposants, hein, qu'ils avaient raté quelque chose. Voilà.
Oui.
Merci pour vos témoignages déjà. Je voulais juste rebondir sur les remarques que vous avez faites sur la peur de l'homosexualité justement chez nos enfants. C'est très vivant. J'espère juste que c'est une peur qui restera que chez les parents. Et qui ne sera pas transmise à nos enfants. Ensuite, pour chacun de vous trois, quels sont pour vous les combats qui restent encore à mener au sein de la PGL et puis dans vos domaines respectifs? On a eu beaucoup d'avancements et beaucoup de progrès ces 10-15 dernières années. C'est quoi les prochains?
Quelles sont les revendications de la PGL?
Bah, pas que, aussi vos combats, je pense, idéologiques. Et puis, il n'y a pas que la loi, quoi.
On a dit tout à l'heure, effectivement, que pas toutes les familles arrivaient à établir ce lien de protection, ce lien juridique de filiation. Donc là, ça, c'est un combat, qu'on puisse reconnaître qu'un enfant puisse avoir, par exemple, plus de deux parents. C'est un combat à la fois juridique, mais pas que, d'ailleurs, important. Ça, c'est sans doute le premier point. Donc on va essayer de rechercher un petit peu où sont encore les discriminations pour nos familles. On va dire que de manière générale, enfin, si je parle là en juridique, en droit, on va dire que ne nous semble pas logique qu'on ne puisse pas tous établir le lien de filiation de la même manière pour tout le monde. Et pourquoi est-ce que on ne peut pas, quand on est une femme, reconnaître un enfant ou bon voilà. Et donc en fait, on est vraiment sur une idée qu'il faudrait réformer. On disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'un parent? Pouvoir réfléchir à cette question-là et pouvoir protéger toutes les familles de la même manière et très simplement. Donc ça, c'est vraiment un combat tout à fait global, parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Et puis, il y a un point qui est important aussi et qui nous semble important. Quel que soit le mode de conception de l'enfant mérite d'être protégé. Donc on pense là, en l'occurrence, à la gestation pour autrui, qui est un épouvantail encore aujourd'hui, dont on ne peut pas parler sans qu'évidemment ce soit la Révolution française. Donc qu'on puisse commencer à parler de ce mode de conception-là, qu'on puisse mieux expliquer comment ça fonctionne, ce que c'est véritablement, qu'on puisse ouvrir un débat sur le sujet.
On va prendre les deux prochaines prises de parole du public.
Oui, moi c'était un peu une question similaire à celle qui vient d'être posée, mais c'est savoir s'il y avait des luttes en cours, même en direction des parlementaires sur des sujets précis, mais voilà, ça a été un peu abordé. J'ai l'impression que c'est pas activement à l'ordre du jour tout de suite. Mais je voulais revenir sur le sujet des parents séparés, sans droit. Moi, j'ai découvert ce sujet récemment et je trouve que c'est très, très grave comme situation. Par exemple, là, en l'occurrence, c'est deux mères qui, des deux, n'a pas été en capacité d'adopter dans les temps avant la séparation. Et au moment où se produit la séparation, il devient presque impossible d'adopter. Le motif qui est donné par le tribunal, c'est que ça reviendrait à priver la mère qui a accouché de son propre lien de parenté. Et ça me paraît être un argument complètement dingue, parce que ça revient à effacer entièrement toute l'histoire de la famille et de l'enfant et du couple. Voilà, donc ça me paraît être un combat aussi hyper prioritaire pour rétablir des droits aussi pour les enfants, notamment parce que il n'y a plus qu'un parent qui a des droits sur l'enfant et que ce parent se retrouve, à l'hôpital ou décède ou ce genre de choses, que devient l'enfant et évidemment les droits de la maman qui n'a pas accouché, quoi. Donc, voilà.
Oui, relativement rapidement, il faut quand même dire que là, il y a actuellement les débats pour une prochaine loi bioéthique sont relancés. Donc effectivement, toutes ces questions à la fois d'accès à la parentalité au moyen des techniques de médecine reproductive se reposent aujourd'hui. Donc est-ce qu'on va être en capacité de penser la ROPA, par exemple la PMA ROPA, c'est-à-dire le fait que la femme qui accouche porte un enfant conçu au moyen des ovocytes de sa partenaire. Est-ce que ça, c'est un... Voilà, la question de la... Alors, il y a la question de la procréation médicalement assistée post-mortem, qui est aussi en questionnant. Enfin, il y a plein de questions qui sont actuellement en cours de débat. Donc, il y a des choses à faire, évidemment, et on milite activement. Oui, la question des parents séparés sans droit, et c'est comme ça qu'on les appelle à la PGL, est une question cruciale. Aujourd'hui même, à la Cour de cassation, il y avait une très grosse audience sur ce sujet-là pour savoir si, à partir du moment où il y a le refus de la mère dite légale, celle qui a accouché, de voir son ex adopter l'enfant, est-ce que effectivement cette situation est tolérable longtemps ? La Cour de cassation va y répondre très prochainement, du fait notamment de cette audience-là. Ça, c'est toujours la même problématique. Hein. Tant qu'on n'établira pas la filiation facilement, on aura ces situations-là. Et effectivement, une fois qu'on n'est pas parent et que la séparation est actée et qu'il faut discuter de la résidence de l'enfant, de l'autorité parentale, mais évidemment, on réduit la discussion, le sujet, et bien évidemment, on peut être amené, malheureusement, à priver le parent sans droit des liens avec l'enfant du fait de l'absence de responsabilité parentale et du fait de l'impossibilité d'avoir la résidence de l'enfant, etc., etc. Donc c'est des situations à réfléchir, à résoudre, mais qui sont particulièrement cruelles.
On va prendre une toute dernière prise de parole du public.
Alors, moi, j'ai un petit peu peur des prochaines élections présidentielles en France et je voulais savoir il y a des partis qui sont quand même plus homophobes que d'autres. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des droits qui ont été acquis qui puissent être retirés ?
Je vais vous prendre un exemple. Peut-être, certainement, vous ne le connaissez pas. En Italie, les parents qui sont amenés, enfin une loi a décrété il y a quelque temps que les parents qui allaient faire une gestation pour autrui à l'étranger, dans les conditions légales, étaient des criminels. Enfin, des délinquants. On dit on a criminalisé la GPA, c'est pas tout à fait vrai, mais voilà. Oui, il est tout à fait possible, techniquement, qu'on revienne sur des droits acquis, mais on a quand même, la censure de la Cour européenne des droits de l'homme. Au-dessus de nous, quand même. Hein, donc, on fera pas forcément n'importe quoi. Mais c'est vrai que, oui, on peut avoir ces craintes-là, effectivement, d'un retour en arrière. Pourquoi pas, c'est envisageable. Alors après, il faut...
Ouais, moi, je pense que pour compléter ce Catherine, en fait, on est extrêmement vigilant là où on est, hein, sur ce qui peut se passer, anticiper. Alors, c'est vrai que y a un point de repère que moi j'ai en ligne, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et j'avais une crainte qui est pas définitive, hein, c'était que la Cour suprême mette un terme au mariage des personnes du même sexe aux États-Unis au niveau fédéral. Ça n'a pas été le cas. Ouf. Malheureusement, ça, on a vu ce qu'ils ont fait pour l'avortement, mais ça tient peut-être qu'à un fil. Ceci dit, alors c'est une position très politique chez nous, plus on est institutionnalisé, c'est-à-dire plus on a, ce que j'en disais tout à l'heure, plus on est dans les institutions, plus on est à l'intérieur de la République, plus il faut y être, même si c'est pas toujours ce qu'on pourrait faire de mieux, parce qu'on sait qu'il sera plus difficile de nous sortir de là de toute façon. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait, même si on croise les lois et que les institutions sont là pour protéger un certain temps. Un certain temps.
Donc on arrive au terme de ce plateau radio du mardi 19 mai, enregistré en direct depuis l'auditorium de la médiathèque François Mitterrand à Valence, à l'occasion des 40 ans de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Une soirée et une émission coproduite avec la PGL et soutenue par la CAF de la Drôme en partenariat avec Valence Diversité et la médiathèque François Mitterrand de Valence. Merci à nos invités, merci infiniment. Catherine Clavin, coprésidente de la PGL et avocate spécialisée en droit de la famille et de la filiation. Dominique Boren, coprésidente de la PGL. Virginie Descoutures, sociologue et maîtresse de conférences à l'université Picardie-Jules Verne. Merci au personnel de Valence Roman Aglo qui nous a accueillis. Une émission produite par Radio BLV, diffusée aussi sur Radio Royan-Vercors, Radio des Boutières et Radio Couleur Chartreuse. C'était Selva à l'animation, Clément et Florian et Gaëtan à la régie radio et vidéo. Bonne soirée.